Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du forum de la presse de ce vendredi, quatre sujets. Le premier, c'est le renouvellement du mandat de l'aménagement prévu le 29 juin prochain, donc à New York. Alors, un événement attendu, alors que le secrétaire général de l'ONU a quand même présenté un rapport au Conseil de sécurité, un document important qui évoque, qui touche donc à beaucoup de questions essentielles relatives donc à la situation sécuritaire au Mali. Le second sujet, c'est donc le report dans un premier temps de la réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix, et ensuite le fait que les groupes armés annoncent qu'ils seront bel et bien présents à la prochaine réunion. Ce sera donc le lundi prochain. Alors, comme troisième sujet, nous allons aborder une question assez importante, puisque ce sont les autorités françaises qui maintenant reprochent au ICA d'être un peu trop proche des djihadistes de Yad Agagali. Comme quatrième sujet, ce que nous allons aborder, c'est donc les conclusions. Ce sont les conclusions de la conférence de la CEDEAO à Dakar. Tout cela, nous allons en parler avec nos invités qui sont pour le moment au nombre de deux. Il s'agit de Lamphia Sinaba, qui est de Réveil Hebdo, Benjamin Sangala, qui est de Fraternité Africaine. Le troisième journaliste attendu dans ce séjour s'appelle Amadou Diallo. Amadou Diallo est de l'Essor. Nous espérons le voir dans ce studio d'un moment à l'autre. À la présentation, Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Auditeurs solitaires, bienvenue. Le renouvellement du mandat de l'aménagement le 29 juin prochain, l'événement est attendu sans doute avec impatience, aussi bien ici à Bamako qu'à New York. À New York, d'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a donc rendu public un document qui s'appelle donc un rapport qui lui avait été demandé par le Conseil de sécurité. Et dans ce rapport, il touche à tout ce qui est essentiel et qui se rapporte donc à la situation sécuritaire du pays. Première question à nos invités, Lamphia Sinaba, vous qui êtes donc de l'Éveil Hebdo, est-ce que vous avez pris connaissance du contenu de ce rapport de Ban Ki-moon?
Non, bien avant même qu'il ne présente le rapport, le chef de l'aménagement en a parlé au cours d'une conférence de presse la semaine. Globalement, ça parle du mandat de l'aménagement, en ce qui concerne son renforcement en termes d'équipement du point de vue des blindés. Il y a un besoin qui se pose aujourd'hui. Et également, renforcement en termes de moyens aériens pour la surveillance aérienne, et surtout de renforcement de capacité. Et le renforcement en termes de renseignement, parce qu'aujourd'hui l'aménagement, il faut reconnaître qu'il y a ce besoin criard qui est là aujourd'hui. Les responsables même, que ce soit du côté politique ou encore du côté militaire, ont reconnu qu'il y a aujourd'hui un besoin criard de renseignement. Il faudrait avoir des éléments sur l'ennemi aujourd'hui. Globalement, le rapport va être axé sur ça. Mais au-delà aussi, le représentant, le chef de l'aménagement l'a dit, il s'agit aussi de faire en sorte que ce qu'on dit puisse être concrétisé. Parce qu'on dit que lorsqu'il y a une attaque ou encore tout individu qui est susceptible, qui attaque les forces, le casque bleu est susceptible d'être puni, traduit devant les tribunaux, on le dit, mais jusqu'à présent, cela n'arrive pas à être concrétisé. Et on espère qu'à travers ce renforcement, ce renouvellement de mandat, c'est des éléments qui seront concrets sur le terrain.
Benjamin Sangala, il s'agit d'un document de 29 pages et qui parle quand même beaucoup d'aspects de la situation sécuritaire au Mali.
Bien sûr, en fait, comme Lamphia l'a souligné tout à l'heure, cette fois-ci, ce qu'on peut apprécier, c'est que de renouvellement, on pense qu'il faut quand même revoir aussi certaines dispositions, en tout cas du mandat de l'aménagement. C'est vrai, très souvent, on parle de la protection des civils, on parle d'autres, de bons officiers, de la réconciliation et tout autre. Mais j'ai apprécié également aussi l'intervention du chef d'état-major de l'aménagement, Hervé Gomard, qui dit cette fois-ci, demain si on nous attaque, on va réagir. Ça veut dire que cette fois-ci, certainement que la ministre vraiment est prête vraiment à réagir à toute attaque qui pourrait en tout cas intervenir.
Mm-hmm. Alors, je disais que le document aborde quasiment toutes les questions essentielles relatives donc à la situation au Mali. Ban Ki-moon a beaucoup parlé. Il annonce des choses auxquelles les Maliens peuvent être assez sensibles. Alors, je vais donc citer un passage de ce rapport. Il est assez long. Alors, citation donc, compte tenu des menaces existantes et afin de renforcer les dispositifs de l'aménagement, il faudrait envisager de revoir le mandat de la mission pour confirmer qu'elle est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires à l'intérieur de ces zones de déploiement et en fonction de ses moyens afin de faire en sorte que les zones d'opération ne soient pas utilisées pour perpétrer des actes d'hostilité de quelque nature que soit et qui puisse l'empêcher de s'acquitter des tâches relevant de son mandat. Fin de citation. Alors, ceci annonce quand même, à mon avis, la FIA, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Bon, en fait, c'est ce à quoi on s'attendait dès le début, mais on nous avait fait croire que c'est un mandat robuste. Même récemment, dans la semaine, le chef de l'aménagement l'a rappelé que c'est un mandat robuste, dans la mesure où c'est un mandat qui est élaboré sous chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais on a vu que malgré cet état de fait, la MINUSMA, c'est les casques bleus continuent d'être victimes d'agressions, d'attaques terroristes. Et on estime qu'il y a lieu aujourd'hui de renforcer. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, pourquoi peut-être avoir attendu tout ce temps pour changer, pour renforcer ce mandat-là? Parce que l'année dernière, on se rappelle, lorsque la MINUSMA demandait le renouvellement, attendait le renouvellement du mandat, mais on était tous là, on pensait qu'on allait aller au-delà ou encore donner ce genre de, la citation que vous venez d'évoquer, ce genre de contenu au mandat de la MINUSMA. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et il faut reconnaître que quelque part, il y a nos autorités aussi, parce que je me rappelle l'année dernière, juste quand ce mandat a été renouvelé en 2015, les autorités ont été les premières à réagir en disant oui, c'est bon, mais en réalité, il fallait reconnaître que ça pose d'énormes problèmes. Et ce qui est encore grave dans cette situation, c'est que souvent, les casques bleus eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience ou encore, ils n'ont pas une idée exacte de ce qu'ils doivent faire. Parce que ça, c'est le chef de la MINUSMA même qui le dit. Il y a des casques bleus qui lui ont dit, dans la région de Mopti, bon, nous avons vu des hommes en armes qui ne sont pas des militaires maliens. Ils avaient en plus leurs suspects, mais nous n'avons rien fait. Parce qu'on ne sait pas si on devrait agir ou pas. Nous n'avons pas été attaqués. Mais il dit que si vous avez réagi de la sorte, vous avez tort. Vous avez tort. Votre mandat vous oblige à être un groupe impartial, mais pas neutre. Donc, quelque part, je me dis que est-ce qu'il ne serait pas lieu aujourd'hui de revoir, même au-delà du renforcement, expliquer aux casques bleus ce qu'ils doivent faire, là où ils doivent aller, là où ils ne doivent pas aller, à mon avis.
Alors, Benjamin Sangala, revoir le mandat de l'aménagement, je crois que beaucoup de Maliens rêvaient d'entendre cela.
Bien sûr, bien sûr. En fait, ça fait déjà 3 ans que les gens vraiment attendent vraiment cet aspect-là. Mais chaque fois, vous voyez, dernièrement aussi, chaque fois que les éléments de l'aménagement sont attaqués, chaque fois des victimes, il ne se passe pas un jour qu'il n'y ait pas en tout cas une victime en tout cas de l'aménagement. Donc, il est temps de revoir en tout cas la copie. On ne peut pas être quand même, on ne peut pas prétendre protéger certaines situations, la population, et également assister impuissamment face à certaines dérives. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, en tout cas, à partir de ce moment, on peut quand même inclure dans le processus, si les éléments de l'aménagement sont attaqués, qu'ils puissent quand même réagir également.
Alors, il sera donc 17h30 dans moins de 3 minutes la suite de cette émission dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. deux journalistes dans ce studio pour revenir sur ce qui aurait fait l'essentiel de l'actualité cette semaine. Il s'agit de l'Amphia Sinaba de l'Éveil Hebdo et de Benjamin Sangala de Fraternité Africaine. Alors, nous étions en train d'évoquer il y a donc une minute cette question du renouvellement du mandat de l'aménagement, un événement prévu donc à la fin de ce mois. On a cité un bout quand même du rapport du secrétaire général Ban Ki-moon. Alors, c'est un document qui sera examiné par les membres du Conseil de sécurité avant que les décisions ne soient prises. À présent, je voudrais vous dire ceci. Ban Ki-moon, on a dit déjà, il a assez parlé. Il est allé jusqu'à recommander que le gouvernement et l'aménagement fixent des objectifs intermédiaires détaillés assortis de délais pour le redéploiement progressif des forces de défense et de sécurité maliennes dans le Nord, ce qui, selon le patron de l'ONU, annoncerait un réexamen du déploiement de l'aménagement. Alors là aussi, je crois que c'est un discours... nouveau, non, la Sinaba?
Bon, un peu nouveau, parce que quand on regarde l'accord, il est prévu des éléments de ce genre, mais peut-être qu'on ne s'attendait pas à vu les lenteurs dans l'évolution de l'accord, on ne s'attendait pas à de telles dispositions en l'état actuel. Sinon, à mon avis, c'est des dispositions qui sont déjà prévues.
Benjamin Segala.
Qu'on ne se tienne pas seulement au discours, mais que cette fois-ci, une fois que les choses vraiment se rendent à l'ordre, que vraiment l'aménagement et également l'ONU puissent vraiment réagir en tant que tel.
Il me semble quand même difficile d'être indifférent à ce rapport. Vous savez, Ban Ki-moon parle de beaucoup de choses. Il parle d'insuffisance d'hommes, d'équipement, de matériel répondant aux normes de l'ONU. Il parle à présent d'hélicoptères d'attaque, d'unités d'hélicoptères de manœuvre, de bataillons spécialisés de combat et d'une unité de protection de la force de l'ONU. Tout cela, selon vous, ça n'annonce pas de changement, la situation là-bas?
Le changement, c'est nouveau. C'est les exigences du moment. C'est ce que je disais à l'entame de mon propos. Les besoins aujourd'hui qui sont là, en termes d'équipement, de blindés, d'avions de surveillance et de renseignement. Je pense que c'est le développement de tout cela. Donc, c'est la situation actuelle qui aujourd'hui qui l'exige. Et je pense que ce changement-là, il était attendu, compte tenu du fait que l'année dernière, c'est vrai, il y avait des attaques, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Parce que ce qui est encore grave dans la crise, c'est qu'on est en train, quelque part, d'aller, entre guillemets, à une sorte de banalisation
de la
situation. Chaque jour, il y a des gens, des individus qui meurent. Ce qui devait être comme le chef, ça, je n'y étais pas, mais il dit qu'il a reconnu cela. Ce qui devait être une exception a tendance aujourd'hui à être une règle. Et c'est ce qui est vraiment déplorable. Donc je pense que c'est tout cela qui explique toute cette détermination, tout cet engagement de l'ONU.
Mais justement, est-ce que ce discours, le contenu de ces rapports, est-ce que ça ne reflète pas cette prise de conscience de la gravité, de la complexité de la situation?
Justement, c'est ce qu'ils sont en train de développer, parce que il faudrait qu'on change, qu'on n'ait pas en tête que ouais, si il meurt aujourd'hui, c'est la guerre. Non. C'est l'exception, c'est que s'il y a un mort, il y a deux morts, c'est l'exception. C'est ce qui doit être l'exception. Mais aujourd'hui, ça devient une sorte de règle. Quand 5 meurent, 10, donc c'est l'ordinaire. Donc je pense que c'est des éléments qui ont beaucoup plus milité au fait qu'il y ait toute cette détermination, tout cet engagement de l'ONU, de l'aménagement à aller dans ce sens-là, à mon avis.
Benjamin Sangala.
D'ailleurs, il faut préciser, comme la fille l'a dit, c'est devenu tellement banal que chaque jour, vous entendez quand même qu'il y a quand même une mine par-ci, qu'on a attaqué une position de l'aménagement. Mais l'aménagement, sinon l'ONU, si peut-être elle avait pensé à tout cela bien avant, 2 ans, 3 ans, on ne serait pas dans cette situation. C'est vrai qu'il y a besoin de réellement besoin de matériel, mais si on leur avait donné le mandat de riposter bien avant, est-ce qu'on serait dans cette situation aujourd'hui? Parce que tout se passe, on ne réagit pas, peut-être qu'on sait peut-être où est-ce que même les groupes terroristes se cachent, il n'y a rien de fait, et c'est l'éternel retour à la situation de départ. Exactement, c'est vraiment déplorable.
Elle aurait dû le faire avant, c'est ce que disent mes invités. Mais après tout, si même en ce moment, l'ONU décide de changer de fusil d'épaule, ce n'est pas quelque chose de positif, Sangala?
C'est positif, mais comme on l'a dit, attendons de voir. Peut-être qu'on quitte quand même ce discours et qu'on aille vraiment dans la pratique, dans
le concret. Et cette question de création d'une force d'intervention rapide les Nations Unies au titre donc du cadre de coopération entre les missions en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour améliorer les interventions, non?
Bien sûr, améliorer les interventions, mais c'est qu'il faut quand même reconnaître que les interventions ne sont pas comme avant. Vous savez que c'est très souvent les mines. Est-ce que les mines s'explosent? On ne sait pas qui est-ce qui les a déposées. On ne sait pas est-ce que... Et bien d'autres choses. Donc, c'est vrai que les groupes d'intervention, c'est une bonne chose. Comme je le disais tantôt, attendons de voir tout ça. Moi, je suis assez sceptique par rapport à tout ça.
L'AMFIA, il est quand même proposé de transférer la force d'intervention rapide de 650 hommes de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et à la MINUSMA. Je crois qu'elle se veut un peu plus concrète quand même, à présent l'ONU.
À mon avis, oui. Et je pense que ce transfert, quelque part, il le faut parce que le besoin, il est toujours là, parce que bien avant qu'on soit dans cette situation de recrudescence totale, il faut reconnaître que le besoin d'hommes se posait. Donc si, en plus de cela, la situation perdure, je pense que l'étoffement de l'effectif est justifié, même si quelque part, il y a certains Maliens qui sont hostiles à cela. Mais ça se comprend, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est des gens qui ont été tout le temps hostiles à la présence des forces onisiennes dans le pays.
Alors, on évoque donc assez souvent maintenant la situation au Mali, aux Nations Unies, mais pas seulement, puisqu'à la CEDEAO aussi, on en parle beaucoup. Alors, vous avez suivi avec nous les travaux de cette conférence des chefs d'État, alors qui s'est donc achevée à Dakar. Qu'est-ce que vous en retenez au sujet donc de la situation au Mali, Sangala Benjamin?
En tout cas, c'est une bonne chose si vraiment le cas venait vraiment de se présenter. C'est vrai que les conclusions de la rencontre des chefs d'État de l'espace CEDEAO exposent à clairement que désormais, à partir de ce moment, c'est ce que je
souhaite. Allez-y.
Et à partir du moment qu'ils puissent avoir quand même une coordination des actions par rapport à tout ce qui se passe, surtout c'est la lutte contre le terrorisme. Et également, vous savez, comme on a l'habitude de le dire sur ce plateau, le terrorisme n'a pas de frontières, il n'a pas de visage. Faire en sorte que tous les pays maintenant s'impliquent, comme l'avait l'habitude de dire l'ancien président du Mali ATT, il faudrait que les États s'impliquent à la lutte contre le terrorisme. Ni TT ça, en tout cas, on n'arrivera pas à atteindre le but fixé.
Dans ce rapport, ce que j'ai aimé le plus, c'est la détermination des chefs d'État de la CEDEAO. Ils ont été clairs en ce qui concerne le déploiement de l'armée malienne sur l'étendue du territoire national. Voilà des recommandations pertinentes. Et à mon avis, si aujourd'hui l'ONU faisait une telle déclaration comme la CEDEAO, je pense que ça allait beaucoup changer. Parce qu'il faut reconnaître que pour une des rares fois, les chefs d'État de la CEDEAO ont été autant clairs, autant pertinents, autant précis en ce qui concerne la présence de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire national et le démantèlement de tous les groupes armés. Et je pense que c'est l'un des aspects fondamentaux qui m'a vraiment impressionné. Impressionné, oui, parce que ce n'est pas courant. Une telle déclaration, un tel courage de la part des chefs d'État de la CEDEAO.
Une déclaration, même quand elle est quand même bien forte, lorsqu'elle n'est pas suivie d'action, d'actes. Benjamin Sangala.
La détermination, peut-être comme l'a dit l'AMFIA, certainement va se suivre d'actes cette fois-ci. On n'a jamais vu, en tout cas, les chefs d'État aussi déterminés que cette fois-ci. Ça veut dire que désormais, à partir de ce moment, ils prendront les mesures nécessaires à y arriver.
L'AMFIA Sangala.
Je pense que Ça prouve d'abord leur attachement à l'unité, à l'intégrité du territoire malien. Ça, c'est un aspect très important. Mais au-delà de cela, ça prouve également leur attachement à la souveraineté du Mali. On me dira peut-être que oui, c'est une simple déclaration. Oui, tout part d'une déclaration. D'abord, il faudrait exprimer cela, il faudrait avoir cette volonté de le faire. Et je pense que si toutefois les efforts de part et d'autre parvenaient à se conjuguer, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Sinon, je me dis que depuis la signature jusqu'à maintenant, normalement, ça devait être quelque chose de progressif, parce que le groupe armé, peut-être ce sujet, on va l'aborder. Quelque part, je me pose la question de savoir s'ils sont de bonne foi. En termes clairs, il faut poser le problème en termes de sincérité. Parce que qu'est-ce que l'accord prévoyait ? On disait que 60 jours après la signature, les groupes armés devaient normalement produire la liste des combattants. Mais nous sommes à plus de 350 jours de la signature de l'accord. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir la liste des combattants. On me dira peut-être qu'ils sont cantonnés quelque part. Point d'interrogation.
Mais dans les documents, dans les rapports justement de Ban Ki-moon, on parle de chiffres, on avance des chiffres. Il y a une partie de la CMA qui a donc proposé un certain nombre de combattants. Mais c'est, même dans ces documents, on regrette que ce ne soit pas le cas pour la plateforme pour l'instant. Alors, nous allons passer à un troisième sujet. Ce troisième sujet, c'est donc le comité de suivi de l'accord pour la paix. Vous le savez certainement, autant que moi, que les choses ne sont pas faciles au niveau de ce comité, puisque cela fait combien de jours qu'on attend qu'ils reprennent ces activités, ces réunions habituelles. Alors, la 9e réunion, elle a été reportée une première fois, une deuxième fois, et c'est maintenant qu'on annonce que les groupes armés seront bel et bien présents le lundi pour donc cette 9e réunion. Alors, cette situation, quelle lecture en faites-vous ? On commence par vous, Benjamin Sangala.
Oui, on a entendu certains membres de la du comité de suivi de l'accord dire que, bon, écoute, qu'il y a quand même un équilibre de traitement entre les mouvements armés. Donc certains se sont sentis frustrés. Il y a ce problème. Deuxièmement, aussi, il y a le problème de fond, en tout cas que les gens n'en parlent pas, que ce problème existe également. C'est vrai, est-ce que le fonds attendu pour le CSA, est-ce que ce fonds continue à venir ? Le traitement aussi, c'est-à-dire que le traitement du personnel, est-ce que le personnel qui est engagé pour faire ce travail, est-ce qu'ils sont traités ? Est-ce qu'il y a la mensualité, j'allais dire. Donc il y a tous ces problèmes. Donc, c'est moi qui a amené ce blocage. C'est vrai qu'entre les mouvements armés aussi, ça ne va pas. C'est là, entre la plateforme et puis la CEMA. Et la CEMA peut-être dira que, bon, on a été lésé à profit de la plateforme, et d'autres diront le contraire. Il y a aussi également un autre point qu'il faudrait pour la période intérimaire. Ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur la mise en place des autorités intérimaires. Donc, tous ces points. Et à la dernière minute, on a entendu que c'était le lundi prochain, le 13, ils vont encore se retrouver pour en parler de la situation. Ça veut dire que la réunion pourrait se tenir le lundi prochain, s'il n'y a pas de situation quand même.
L'AMFIA, c'est là-bas ?
Moi, je pense qu'ils ont intérêt à ce que ça aille vite, parce que tout dépend en quelque sorte du comité de suivi de l'accord. Il y a un an de l'accord, jusqu'à présent, les signataires, notamment en ce qui concerne les groupes armés, n'arrivent pas à monter quelque chose de plus concret, de plus palpable au peuple. C'est là où, quelque part, ça amène certaines personnes à être pessimistes. À un an de la signature de l'accord, quand on regarde de l'autre côté des efforts consentis par le gouvernement, des efforts consentis par la communauté internationale, mais souvent, c'est les groupes armés qui viennent, qui vont, qui viennent, qui reviennent, qui partent. Bon, là, quelque part, ça amène des sentiments de frustration. Ça amène un certain pessimisme.
C'est des intérêts.
Mais comme c'est des intérêts aussi, bon.
Alors, les groupes armés quand même disent qu'ils seront présents à la réunion, la 9e réunion, donc le lundi. Vous croyez qu'il n'y aura plus de couac concernant cette 9e réunion ?
Bon, vraiment, on n'a pas la garantie de dire qu'il n'y aura pas de couac. C'est des gens qui sont imprévisibles, sincèrement.
Benjamin Sangala ?
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pourparlers avant d'être là, entre les groupes armés et tout autre. Bon, on espère qu'il n'y aura pas de couac, mais on ne saura rien dire pour le moment. Il faut attendre quand même que la réunion se tienne d'abord.
Alors, nous allons, avant donc d'aller à la pause, nous allons aborder un quatrième sujet. Alors, c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup les collègues, puisqu'il se rapporte directement à la situation relative au terrorisme au Mali. Alors, ce sont donc les autorités françaises qui mettent en cause le Haut Conseil de l'unité de l'Azawad. Pourquoi ? Parce que ces autorités reprochent à ce Haut Conseil d'être trop proche des djihadistes dans Sardine. C'est quelque chose qui vous surprend, la fiasse là-bas ? Que la France quand même fasse cette remarque ?
Pour que la France fasse cette remarque, ça me surprend aujourd'hui, quand on sait les circonstances dans lesquelles le HCI a été créé. C'est une émanation, en quelque sorte, dans Sardine, d'Agadi. Donc dire aujourd'hui
Je voulais dire que c'était un peu comme un secret des policiers.
Oui, effectivement. Dans la mesure où ils ne se sont pas vraiment trop séparés, ils étaient plus ou moins ensemble, plus ou moins en contact. Donc peut-être la France peut demander aujourd'hui qu'il y ait une clarification de position. Là, je peux comprendre. Mais de là à signaler comme si c'est quelque sorte de découverte ou encore une sorte de scoop, non. C'était connu d'avance. Hein. D'ailleurs, c'est une émanation. De Ansar Dine, ils sont venus d'abord à... quelle autre structure de l'Azawad, islamique de l'Azawad, ils sont venus à Mia, ensuite ils sont venus à Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad Hassuya. Donc, dire aujourd'hui qu'ils sont avec, ils n'arrivent pas à se délimiter, je pense que peut-être, c'est une manière de dire, bon, stop, on en a assez, il faut vous démarquer. Peut-être il faut faire la lecture aussi dans ce sens-là, sinon pas dans le sens où c'est une révélation, à mon avis, non.
Benjamin Sagala.
Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est la position de la France même qui est plus étonnante. Parce que la France aurait pu agir bien avant aujourd'hui. Et nous connaissons tous la situation, nous connaissons tous en tout cas les liens entre ces groupes armés, entre ces mouvements, et entre le HUA, entre le MLA.
Monsieur Sagala, vous dites qu'elle aurait dû depuis longtemps, mais pourquoi elle aurait-elle attendu jusqu'à ce jour? Est-ce que vous avez une explication à cela?
Bon, cette explication, c'est assez compliqué, mais ce qu'on peut quand même expliquer, c'est quoi? La France, vous voyez que depuis 2012, la France a intervenu dans toutes les zones. Maintenant, à la porte de Kidal, la France stoppe. Et c'est avec la France que le MLA aussi est revenu. Vous voyez. Le MLA était quasiment, en tout cas, absent en tout cas, du territoire malien. Et après, d'autres groupes ont été créés, le HUA, le MIA et tout autre. Et on voit aussi l'arrivée de Yagali. Yagali n'a pas pu s'inscrire dans le processus de la paix. On savait que il avait quand même des intentions de... Mais pourquoi la France, en ce moment, n'a pas pu à IAD ou bien de clarifier sa position ou à d'autres mouvements armés qui sont avec lui, clarifier leur position? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, s'ils disent, bon, écoutez, à IAD de clarifier leur position, bon, tant mieux. Si ça peut quand même arranger la situation, il n'y a pas de souci. Mais elle aurait dû faire avant, pas aujourd'hui.
Studio Tamani, presque 17h45, la suite de cette émission dans un instant.
Action.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. La Fia Sinaba de Veille Hebdo et Benjamin Sangala de Fraternité Africaine avec moi dans ce studio pour revenir sur ce qui aurait constitué l'essentiel de l'actualité. Nous abordons à présent, nous l'avons déjà fait avant la pause, nous abordons donc ce que la France reproche aujourd'hui au Conseil de l'unité de l'Azawad. Elle reproche donc à ce Haut Conseil d'être trop proche d'Agali, donc d'être trop proche des djihadistes. C'est un élément nouveau. Alors, dites-nous à présent, l'Anfia Sinaba, après tout, le Haut Conseil de l'unité de l'Azawad a quand même réagi. Elle recuse et elle dit qu'elle a fait ses preuves, elle a apporté des preuves comme quoi elle n'a rien à voir avec le mouvement djihadiste.
Peut-être, compte tenu du fait que le HUA a été à Alger. Tous les groupes qui ont été à Alger se sont démarqués de groupes terroristes. Mais je pense que ça, c'est les versions officielles. Mais les dessous, il y a toujours des connexions. J'étais sur un sujet, je voulais avoir la version de l'ambassade de France, mais là, j'avoue que ça n'a pas été facile.
C'est lequel aussi, c'est pas un secret, c'est
non,
sujet.
Non, c'était un sujet par rapport à la formation d'une unité antiterroriste du MNLA financée par l'opération Barkhane. Ben, quand je voulais avoir la version de l'ambassade, m'a fait tourner. Donc je me dis, pourquoi tenir tout ce silence-là aussi quelque part? C'est nos partenaires, ils doivent communiquer. Le peuple a besoin de cela pour davantage clarifier. Tout cela, c'est des éléments qui peuvent nous aider à faire avancer les choses dans le processus. Mais malheureusement, il y a ce déficit de communication. Maintenant, pour revenir au cas HUA Yadagali, je pense que ce que les Américains ont fait en son temps, si la France avait fait, ça aurait été mieux. Le département d'État des États-Unis, j'ai le communiqué, on peut l'avoir aussi sur le net, ils ont été clairs, ils ont déclaré IAD comme ils sont sur la liste internationale des terroristes. déclaré comme tel et on a mis sa tête à prix. Mais les Américains, ils l'ont fait, mais pas la France. La France est restée, elle a tourné autour du pot. Et quand on a posé la question à un haut responsable français, mais il dit, s'il y a des terroristes ou pas, la question, il faut la poser à Yad, c'est lui seul qui peut répondre. Bon, vous voyez, quelque part, ça amène une certaine situation de confusion. Donc si aujourd'hui, elle demande à ce que Hassouya se démarque, clarifie sa position, je pense que peut-être qu'elle veut davantage, elle aussi, clarifier sa position. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup de Maliens pensent que la France n'est pas claire dans cette histoire. La preuve, on a fait tout le processus ensemble. À l'entame de Kidal, paf, on ferme la porte à l'armée malienne. Et le pire, à l'époque, on a convaincu nos hauts gradés pour qu'ils puissent eux-mêmes justifier leur absence à Kidal. Parce qu'on est allé dire, jusqu'à dire que voilà, on a un problème de moyens aériens, il faudrait que les troupes soient aéroportées, on n'a pas de moyens. Mais l'histoire a prouvé qu'autre chose, les éléments de Mamari ont pu progresser, on l'a vu. Donc, quelque part, il faut reconnaître, c'est vrai, c'est des gens, ils sont venus nous aider, nous sommes reconnaissants, mais il faut reconnaître que quelque part, si nous sommes dans cette situation qui crée souvent des confusions, quelque part, la France a une grande part de responsabilité là-dedans. Ça aussi, il faut le dire. Mm-hmm. C'est sincère.
Alors, Benjamin Sangala, quand le ICA nie être proche des djihadistes, c'est sincère comme réaction, selon vous?
Sincère ou pas, c'est quand même une version officielle, si le ICA le dit peut-être. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, il y a une quand même connexion entre le ICA et Yada Gali. C'est des gens qui se connaissent très bien. C'est des gens qui ont bien travaillé ensemble. Donc aujourd'hui, si le HIA peut-être requise la position de la France, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé entre le HIA et la France pour que la France demande à ce que le HIA précise sa position. Donc il faut quand même qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé entre la France et le HIA. Et maintenant, qu'est-ce que la France veut à partir de ce moment? Peut-être qu'il y a de la Galie, on sait, la France sait où est-ce qu'il se trouve, peut-être certainement. Tout le monde sait qu'il y a de la Galie se trouve à Kidal. Mais est-ce que la France a l'habitude, ou une fois d'informer la population malienne, de dire, bon, nous voulons, informer la population malienne sur la position de Yada Gali? On ne l'a jamais eu. C'est-à-dire, il y a aussi un problème d'information entre les forces Barkhane et les forces armées maliennes, également aussi l'aménagement. C'est vrai, la France, les forces Barkhane opèrent à Kidal. Est-ce qu'ils informent tant bien nos forces armées? Est-ce qu'ils informent les forces de l'aménagement? Donc, il y a ce problème d'information aussi qu'il faut régler entre nous aussi.
L'Anfia Sinaba, à présent, on va vous poser cette question. La France qui accuse donc le ICA d'être trop proche des djihadistes et d'Yad Agali, est-ce que ça ne va pas susciter des règlements de compte au sein de la CMA? Non, on ne va pas demander de compte quand même?
À la CMA, je ne pense pas.
Tout le monde n'a pas.
Je ne pense pas qu'on va demander au sein de la CMA de faire des comptes dans la mesure où les trois entités de la CMA, à savoir le MAA, le MLA et le ACIA, en allant à Alger, chacun s'est déclaré indépendant, différent, dissocié des terroristes, des groupes terroristes et narco-djihadistes. Donc je pense que du moment où il y a cette clarification, ça m'étonnerait qu'il y ait encore des problèmes au sein du groupe, à mon avis.
Alors, vous, Benjamin Sangala, qu'est-ce que vous en dites de cette déclaration quand la France reproche au HIA d'être trop proche d'Yad Agali et de djihadistes? Vous pensez que ça n'aura pas d'effet au niveau de la CMA? Non?
C'est vrai qu'il y aura peut-être d'effet au niveau de la CMA, mais est-ce que cet effet va amener à ce que les gens pourront quand même, aujourd'hui, comment on appelle ça, rompre avec les négociations, tout, quoi qu'il en soit, au niveau où nous sommes, ça va être très très difficile pour les différents groupes de se retirer en tout cas des négociations. Donc quoi qu'il en soit, il faut quand même recoller le morceau pour que les négociations puissent aller de l'avant. Mais retourner la V5, c'est très compliqué.
On va, puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, quand même, on va évoquer un sujet. Le QNET, vous en avez entendu parler?
Oui.
Qu'est-ce que ça vous dit?
Bon, moi, je ne me suis pas trop intéressé au sujet, sincèrement. Mais je n'aime pas aussi commenter les articles des confrères dans ce sens-là, dans la mesure où il est question aujourd'hui d'une question, en quelque sorte, de bras de fer. Parce que c'est le Tchikan qui en parle, et puis de l'autre côté, on a l'honorable qui est incriminé, accusé. Maintenant, si on parle de d'escroquerie, moi je parle en termes de loi. Est-ce que Cunette répond aux normes, les lois en la matière au Mali? Si oui, si ces lois permettent que Cunette exerce, je me dis qu'en ce moment, si les lois l'autorisent, ça sent bien qu'il y a escroquerie, c'est que la loi, les autorités ont encouragé l'escroquerie. Et ce qui me paraît vraiment très probable, ça m'étonnerait qu'on puisse aller sur ce terrain-là. Mais je le dis encore, je ne vais pas parler à la place des gens. Ils ont toute une procédure, tout un cadre légal pour se défendre. Donc je pense qu'il serait mieux que les intéressés eux-mêmes viennent pour qu'ils donnent leur point de vue. Ils peuvent passer par un droit de réponse, ils peuvent passer par autre chose. Voilà.
Benjamin Sangala.
Bon, tout ce que je sais de Kenya, c'est que c'est une entreprise qui a beaucoup évolué, qui a changé de nom. Au départ, c'était Gold Quest. Après, c'était devenu QuestNet. Et puis après, Qnet. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est une forme d'escroquerie ou pas? La question reste posée, en tout cas, à mon avis.
La fiation là-bas, les partis pourront quand même se régler ces différends à l'amiable, non?
Bah oui, à l'amiable, oui. Si l'honorable estime qu'il a été diffamé, son honneur a été bafoué, il peut réclamer des comptes ou encore.
Et pour nos auditeurs, vous allez rappeler ce que justement on reproche les auteurs de cet article, reproche à l'honorable?
Parce que l'auteur de l'article le considère comme le représentant de Cunette. Et Cunette est suspecté d'être
un réseau d'escroquerie.
Et là aussi, il le dit entre guillemets, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire l'information, donc il dit entre guillemets, Cunette est traité d'escroquerie et il est représenté par l'honorable. Donc l'honorable représente en quelque sorte un réseau d'escroquerie, entre guillemets, comme le journal même l'a mis, entre guillemets. Bon, moi, en la matière, je me dis qu'il y a encore lieu de faire un autre travail, à mon avis.
Benjamin Sagala, est-ce qu'il est encore possible que les partis se parlent, se comprennent et règlent cette affaire à l'amiable?
Tout est possible. Les partis peuvent se parler, peuvent régler les choses à l'amiable. Ça va dépendre en tout cas de la bonne foi de tout un chacun. Si l'honorable, comme l'autre l'a dit, veut forcément qu'on n'en parle pas, qu'il veut aller à la justice, tant mieux. Et si l'autre parti aussi pense que bon, qu'il y a mieux de se mettre à la table et puis qu'on en parle, c'est bien faisable. C'est tout à fait bien faisable. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un article qui fait la une des choses. Et également, beaucoup se posent la question sur, en tout cas, le fonctionnement de Cunette. C'est un truc que beaucoup ne connaissent pas. Et le fonctionnement, comment est-ce que... En tout cas, ils ne parlent que de l'argent. Que d'argent seulement. Mais quoi qu'il en soit, si le différent des deux parties... Jusqu'à présent, on n'a pas vu un droit de réponse de l'honorable Etcham. On ne sait pas qu'est-ce qu'il prépare. Mais maintenant, on peut vraiment s'en tenir à ce vide-là.
Alors, à vous maintenant, la parole, Olafia Sinapa.
Moi, à ce niveau, comme Benjamin l'a dit, l'honorable, l'opportunité de réagir, ça lui appartient maintenant. De quelle manière, tout cela dépend de son bon vouloir. Mais je crois savoir qu'il a réagi à sa façon parce qu'il a envoyé un communiqué et puis des articles de presse en ont parlé également. Mais moi, à ce niveau, je pense qu'il était bon d'envoyer un droit de réponse ou encore procéder par la méthode forte. Mais quand un confrère écrit que vous réagissiez par presse interposée quelque part, ça amène une sorte de confrontation même au sein des confrères, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. J'ai commencé à sentir cela parce que c'est un bon petit frère à moi, le monsieur qui a écrit l'article, il a commencé à réagir sur sa page Facebook, il parle de papier chiffon. Bon, entre confrères, je pense qu'on ne devait pas en arriver là. Donc il appartient à l'honorable soit d'envoyer un droit de réponse ou encore d'interpeller le journal. La loi lui autorise cela s'il estime que quelque part son honneur a été terni. Ou encore, tout simplement, il laisse passer, mais le fait de passer par presse interposée aussi, je pense que ce n'est pas de nature à arranger les choses, à mon avis. Il aurait dû il aurait dû, à mon avis, envoyer un droit de réponse ou encore interpeller.
Parce que quelque part,
ça réconforte le journaliste aussi dans son écrivain. Dire s'il ne m'a pas envoyé un droit de réponse, c'est qu'il n'a pas d'argument contradictoire à me proposer. Voilà.
Alors, Benjamin Sangala, en 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce genre de situation?
Bon, ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce genre de situation, c'est quoi qu'en soit, si le journaliste pense que vraiment ce qu'il dit est vrai, c'est une révélation, c'est vraiment au lecteur et à tout autre de prendre conscience de ce que, en tout cas, la société représente.
Alors, dernier mot avec vous.
Un dernier mot, vraiment qu'on trouve une solution à ça pour que ça ne puisse pas dégénérer, c'est pas bon. Comme on le dit, les petites querelles, là, c'est pas bon, ça peut dégénérer, ça peut amener à autre chose, c'est pas bon.
C'est donc sur cet appel que s'achève le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avions 2 journalistes invités dans ce studio, Lamfia Sinaba d'Éveil Hebdo et Benjamin donc Sangala de Fraternité Africaine à la mise en onde. Il y avait Salim Djouara, régie vidéo non durée, réalisation Ousmane Djadje Touré, à la présentation Seydou Fomba. Nous vous souhaitons donc un bon week-end et on se retrouve dans quelques jours.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Dmoundi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.